Chapitre 12e. Je n'aimais pas m'éloigner de Paris. J'avais toujours l'impression que je n'allais pas pouvoir rentrer. À mon retour de Bretagne, lorsque le train s'arrêta à Versailles, je faillis descendre pour aller voir mon père. Tout le long du trajet, cette pensée m'avait harcelé. Mais je n'avais pas envie de recommencer à parler de mes histoires. Je voulais tout oublier, être seul et surtout être à Paris le plus vite possible. Dès que je sortis de la gare, où des gendarmes étaient plantés de 20 en 20 mètres, j'éprouvai un immense soulagement. J'avais beau me dire que j'habitais derrière le Panthéon, je me disais toujours que j'habitais derrière quelque part, la protection de ce monument me semblait bien illusoire, mais j'étais à Paris. Je rentrai à la pension de la rue du Cardinal Lemoine. Une vieille dame était en train de lire dans le salon. Les lambris et les papiers n'avaient plus de teinte, mais cette saleté n'était qu'apparente. Évidemment, le ménage n'était pas fait comme dans un appartement privé. Il l'était cependant chaque jour dans ses grandes lignes, et je ne sais rien de plus agréable que de vivre dans un endroit où tous les détails de la vie quotidienne, sans échapper à l'œil de la maîtresse de maison, n'en sont pas moins sans importance. On pouvait ouvrir la bibliothèque, prendre quelque chose sans que personne vous fît d'observation. Les hommes étaient d'une politesse qu'on aurait pu trouver exagérée. Cette politesse des gens qui vivent en commun sans se connaître et qui s'appliquent à faire bonne impression les uns sur les autres. Une odeur de cuisine bourgeoise, l'odeur était toujours meilleure que la cuisine elle-même, flottait partout. La directrice était en train de payer le blanchisseur, étrange personne, qui jouait la comédie du commerçant que les événements ne changent pas, qui maintient ses prix, continue son service exactement comme avant. Un coffre-fort se trouvait dans l'espèce de réduit qui servait de bureau. Un monsieur âgé, décoré, attendait le moment de parler à la directrice. Une femme de chambre allait de l'un à l'autre et demandait à chaque pensionnaire si on lui avait changé ses serviettes. Elle me le demanda aussi. C'est enfantin, mais cette question me causa un grand plaisir. Je me dis que mes craintes étaient idiotes, qu'on ne m'eût rien demandé si quelque chose s'était passé en mon absence. Il était 8 heures du soir. Je saluai Madame Meunier. Elle était de ces personnes dont l'honnêteté ne fait aucun doute, et que des messieurs sérieux, parce qu'elles sont seules, qu'elles ne savent pas se défendre, qu'elles ont besoin de conseils, protègent de façon désintéressée. Ces messieurs m'inquiétaient un peu. Le lendemain, je reçus une lettre de mon père me demandant de venir à Versailles. Il se passa un incident curieux au moment de payer ma note. Madame Meunier me demanda si je voulais une facture. Je répondis que ce n'était pas la peine. Une femme de chambre à ce moment lui parla de je ne sais quoi. Quand la directrice s'occupa de nouveau de moi, ayant oublié sans doute sa question et ma réponse, elle prit une plume et commença à faire ma note. Je lui répétai qu'il était inutile qu'elle prît cette peine. Elle me répondit « Oh, ce n'est pas une grande peine puisque je suis en train de la faire. » Alors, bizarrement, je lui dis « Mais non, je n'y tiens pas. Ne me faites pas de notes. J'aime mieux que vous ne m'en fassiez pas. » C'était incompréhensible. Ce bout de papier n'avait aucune importance. Mon nom n'y figurait même pas. Mais il m'était tellement agréable de ne laisser aucune trace de mon passage que je n'avais pu résister. Madame Meunier me regarda avec étonnement. Voilà comment, pour un détail insignifiant, il m'arrive parfois d'éveiller la méfiance. Je m'en allais en murmurant quelques paroles confuses, furieux contre moi-même. Une fois dehors, je posai ma valise sous un cafetier qui fit d'ailleurs beaucoup de difficultés pour me la garder et qui finalement me dit, sur un ton vraiment peu aimable, qu'il ne garantissait rien. Dans les jours qui suivirent, mon père me conduisit chez 4 ou 5 personnes qu'il connaissait à Versailles. Avant d'entrer, nous avions toujours de petites disputes, car il voulait que j'expose moi-même ma situation et moi je voulais que ce fût lui. Je lui disais que cela aurait plus de poids. Il me répondait que les gens seraient beaucoup plus intéressés par moi que par lui. Je n'insistais pas, car je me rendais compte que le seul fait de m'accompagner dans ses visites était déjà un immense sacrifice pour lui qui mettait son amour-propre à ne jamais rien demander à personne. Chaque fois que nous entrions dans une maison, son énervement me faisait de la peine. Il essayait de me le cacher, car il se le reprochait comme un manque d'affection à mon égard. J'ai souvent remarqué une attitude semblable chez des parents que les circonstances ont séparés de nous et qui, depuis, se sont liés d'amitié avec des gens qui sont en réalité beaucoup moins que nous pour eux. Il me conduisit d'abord chez ceux de ses amis auxquels il tenait le moins. Puis, comme, justement pour cette raison, ses amis n'avaient aucun désir de faire quoi que ce fût pour moi, il fut bien obligé de m'emmener chez ceux auxquels il tenait le plus. Les recommandations qu'il me faisait alors avant d'entrer étaient innombrables. Celle sur laquelle il revenait sans cesse était que je n'insiste pas sur le côté dramatique de ma situation. Il fallait que je n'eusse pas l'air ennuyé, que je parlasse comme incidemment de ce qui m'était arrivé, que je ne donnasse aucun détail capable d'effrayer, que j'eusse l'air d'un homme comme tout le monde. Il craignait tellement que je ne lui obéisse pas, que dès que nous nous trouvions en présence de ces gens sur lesquels on pouvait si facilement faire mauvaise impression, et malgré son désir de voir engager personnellement la conversation, il ne pouvait s'empêcher de raconter lui-même mon histoire, mais en l'adoucissant tellement qu'il ne serait venu à l'idée de personne que j'avais besoin d'une aide quelconque. Quand nous partions, on n'avait pas saisi ce que nous désirions. Je regardais alors mon père dans les yeux pour lui faire comprendre que c'était insuffisant. Il me poussait dehors, me laissant entendre qu'il allait me donner des explications, comme si, à mon insu, quelque chose s'était passé qui modifiait tout. Une fois dans la rue, il m'expliquait que le moment avait été mal choisi. Il me racontait une histoire à laquelle je ne comprenais rien. Enfin, disait-il, ce n'était que partie remise. Lors, finalement, il apparut que toutes ces visites ne serviraient à rien. Mon père, avec un certain mystère, m'annonça qu'il restait encore le collège. Cela me donna une grande joie. Je n'avais jamais osé lui parler du collège. Dès mon retour, il m'avait pourtant semblé que nulle part ailleurs je ne serais mieux. Tout en travaillant, je serais à l'abri. Je ne sais pourquoi, mais être mêlé à une collectivité m'avait toujours attiré. La seule ombre venait de ce que je sentais que cette solution coûtait beaucoup à mon père. Rien que le fait de me présenter au directeur le bouleversait. Il fut convenu que nous opérerions de façon différente. Mon père parlerait de moi d'abord. Je ne me présenterais que s'il avait l'impression que j'avais une chance de réussir. Je dis alors à mon père qu'il fallait cette fois qu'il exposât clairement la situation. Il me répondit d'une façon vague. Il ne voulait pas parler de mon évasion. Il voulait simplement dire que j'avais besoin de travailler, qu'il serait très heureux si on me donnait une situation quelconque. Je lui fis remarquer que s'il ne mentionnait même pas que je m'étais évadé, je n'offrais aucun intérêt, et il n'y avait aucune raison qu'on s'intéressât à moi. Il prétendit que non. Il y avait 17 ans qu'il enseignait dans ce même collège. Au cours de ces 17 années, il n'avait jamais rien demandé. S'il demandait aujourd'hui quelque chose pour son fils, je pouvais avoir la certitude que cela ne lui serait pas refusé. Mon père parla donc de moi au directeur, mais il arriva ce que j'avais prévu. On n'avait besoin de personne au collège. Cet échec affecta beaucoup mon père. Comme ceux qui ne demandent jamais rien, il s'était figuré que le jour où, par extraordinaire, il demanderait quelque chose, lui sachant gré d'avoir été si discret, tout le monde se ferait une joie de lui donner satisfaction. Aussi ce refus, en découvrant le peu de cas qu'on faisait de lui, le plongea-t-il dans une colère dont je ne l'aurais jamais cru capable. Il était délivré de tout scrupule. Il eut de nombreuses réflexions amères. Puisqu'on agissait de cette façon avec lui, il n'était plus tenu par rien. Et alors que je croyais tout fini, il me dit le lendemain que j'avais eu raison, qu'il retournerait voir le directeur pour lui exposer quelle était ma situation exacte. Si, alors, ce dernier persistait dans son refus, mon père, devant un pareil égoïsme, devant une pareille lâcheté, donnerait sa démission. Un tel retournement m'inquiéta. Depuis mon évasion, les réactions imprévues des hommes, les sautes d'humeur, les emballements, les colères, me causaient une frayeur profonde. L'annonce que me fit mon père qu'il n'accepterait pas, que pour une fois qu'il avait formulé une demande, on la rejeta, qu'il dirait au directeur ses vérités, qu'il ferait un esclandre s'il le fallait, tout cela, à cause de moi, me glaça. Je lui dis que surtout il ne fallait pas bouger, qu'il devait faire semblant de ne s'être aperçu de rien, car s'il répondait, il risquait de provoquer une discussion dont les suites imprévisibles pourraient devenir dangereuses pour moi. Mon père ne comprit pas ma prudence. Il ne s'agissait pas seulement de lui, ni de ses rapports avec la direction, mais de moi, son fils, le fils d'un professeur en fonction depuis 17 ans. J'insistais pour qu'il se tînt tranquille, et alors qu'il avait fait tant de difficultés pour m'aider, je me trouvais brusquement obligé de l'en empêcher. Sur ces entrefaites, mon père apprit qu'une de ses amies, dont il ne me donna pas le nom, cachait pour quelques jours dans son appartement de la rue Maurepas un jeune parent qui s'était conduit d'une façon admirable. Avant la guerre, il avait écrit un roman. Il s'agissait des aventures d'une femme d'une grande beauté vivant au milieu des sauvages. En 1940, condamné à mort par les Allemands, il avait réussi à s'échapper. Repris au moment où il distribuait des tracts, bêtement, par une espèce de vieille baderne qui les avait vus mettre dans sa boîte aux lettres, il avait réussi à s'esquiver avant qu'on l'eût identifié. Puis il avait gagné l'Angleterre. Sa femme avait été arrêtée. Il était revenu en France pour se livrer. Sa femme en sûreté, il avait réussi à s'évader de nouveau. Devant de tels exploits, je me sentais comme un lycéen devant un savant. Mon père ajouta qu'il avait été obligé de se procurer une fausse carte d'identité, sans faire la moindre allusion aux difficultés. Cela me surprit. Moi, qui trouvais pourtant tout naturel d'avoir des faux papiers, l'idée ne me serait jamais venue de dire que j'avais été obligé de m'en procurer. Et ce qui était extraordinaire, c'est que moi qui les avais cherchés, sans vraiment m'y croire obligé, je n'en avais trouvé que de médiocres. Mon père pensa qu'une rencontre entre lui et moi ne pourrait qu'être profitable à tous les deux. Il était persuadé que j'intéresserais ce héros et il pensait que celui-ci, fort de son expérience, pourrait me donner d'utiles conseils. Et, il faut bien le dire, mon pauvre père ne résistait à rien qui pût à la fois faire plaisir à autrui et flatter son amour-propre. Je lui objectais que le moment était peut-être mal choisi pour moi de rencontrer un homme que la police recherchait, qu'en réalité nous n'avions aucun point commun, que rien ne me gênerait autant que de lui être présenté comme ayant agi moi aussi avec héroïsme. Mon seul but était de ne pas me faire prendre, sauver ma vie. Je ne me sentais pas le courage d'entreprendre de nouvelles choses. Je ne cherchais qu'à me faire le plus petit possible. Mais mon père insista. Il dit que tous ceux qui, comme nous, avaient donné des preuves aussi éclatantes de leur patriotisme, devaient se connaître, s'unir, conjuguer leurs efforts, que cet homme admirable, pas plus que moi, ne faisait profession d'héroïsme. J'acceptai finalement pour ne pas mettre mon père dans l'embarras. Il avait tant fait pour moi que je ne voulais pas me dérober au moment où il pouvait être fier de se montrer avec son fils. Nous allâmes rue Maurepas en grand mystère. J'eus alors la surprise de constater que cet ami n'était autre que Mademoiselle de Boisboissel, chez qui nous nous étions rendus quelques jours auparavant et qui, à la demande de mon père de me cacher chez elle, avait répondu qu'elle n'avait pas de place. J'en ressentis une certaine amertume, mais bien vite je la chassai. Il eût été vraiment ridicule d'en vouloir à une étrangère, de n'avoir pas fait pour moi ce qu'elle faisait pour l'un de ses parents. Dans le salon, une grande pièce vieillotte, quelques personnes s'entretenaient à voix basse. Elles avaient cet air particulier qu'ont les gens que rassemble une raison grave, dont on ne parle pas encore. Je m'assis à l'écart. Jean de Boisboissel, objet de cette réunion, n'avait pas encore paru. J'étais excessivement intimidé à la pensée de la conversation que j'allais avoir avec lui, des questions qu'il allait me poser, des marques d'intérêt qu'il me témoignerait. Je me sentais tellement peu de choses à côté de lui, je sentais que mes aventures étaient tellement peu intéressantes. Et ce qui me gênait plus que tout était de sentir à mes côtés mon père si fier de moi. J'aimais beaucoup mon père. Je craignais tout le temps qu'il ne s'aperçût de mon insignifiance, qu'à la suite d'un incident quelconque il ne pût pas ne pas s'en apercevoir et qu'il n'en souffrît. Enfin, le héros arriva. On aurait pu croire que ce n'était pas lui, tant son entrée fut discrète. Bien qu'il eût été tant question de ce qu'il avait fait, de son caractère, de son courage, personne ne bougea. Quand il embrassa sa cousine, elle ne s'interrompit même pas de parler. La conversation continua et rien ne modifia l'aspect de tous ces gens qui m'avaient paru attendre quelque chose. Je demeurai glacé. Pourtant, il m'arrivait souvent, par nécessité, de dire que j'avais accompli des actes que je n'avais précisément pas accompli. mais j'avais peur qu'on ne s'en aperçût, et qu'au lieu d'avoir l'indulgence qu'on a habituellement pour les gens qui se vantent, on ne me traitât brusquement comme un suspect, que les choses n'allassent plus loin, ce dont j'avais toujours la crainte dès que je n'étais pas du même avis que mon interlocuteur. Je compris alors que cet héroïsme, dont je me l'étais imaginé tout le monde allait s'entretenir, demeurait absent de la conversation, et je m'en réjouis beaucoup. Pourtant, quand nous prîmes congé, le héros, tout en me regardant avec une intensité particulière, garda ma main dans la sienne quelques instants de plus qu'on ne le fait habituellement, voulant me montrer ainsi que nous étions de la même famille. J'en fus bouleversé, et toute l'hostilité qui avait grandi en moi devant tant de morgues apparentes fit place à une profonde et sincère admiration. Mon père, qui ne s'était aperçu de rien, me reprocha sur le chemin du retour de ne pas avoir provoqué un entretien. Comme une jeune fille que les parents auraient voulu plus aimable avec un parti éventuel, je gardais pour moi ce qui s'était passé, et je me contentais de répondre que l'occasion ne s'était pas présentée. Ce fut à la suite de cette entrevue que je pris conscience pour la première fois de ce qu'il pouvait y avoir de beau dans ma situation, et qu'il m'apparut combien ma conduite, depuis mon évasion, était peu en harmonie avec ce qu'on aurait pu attendre de moi. Le sentiment se glissa alors en moi que je pouvais être utile à mon pays, et ainsi sortir de l'affreuse peur et de la solitude dans lesquelles je croupissais. Mais, presque aussitôt après, les risques se présentèrent à mon esprit. Je les examinai un à un, puis il m'apparut que, quelque nombreux qu'ils fussent, je les connaîtrais au moins, que je serais en fin de compte plus à l'abri que dans ma cachette, où le moindre bruit me faisait sursauter. Le danger, le vrai danger, soulage. Je dis à mon père que je voulais revoir ce héros, que je voulais, moi aussi, me rendre utile, et que si l'occasion m'était donnée de servir la France, je serais le plus heureux des hommes.